Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anna Butson, au sommaire en ce mercredi 12 août 2015.
En République démocratique du Congo, inquiétude après la disparition d'un militant citoyen, membre du groupe Lucha, lutte pour le changement.
Ça fait maintenant 3 jours qu'il a disparu et aucune trace jusqu'à présent. Ce qui fait que nous puissions alerter pour essayer de chercher où est-ce qu'il peut être.
Nous suivrons la réaction d'un autre membre de Lucha, Juvin Kombé.
Multiplication des attaques terroristes et djihadistes au Mali.
Au moment où les chefs militaires maliens échangeaient avec le premier ministre à Bamako, un véhicule de patrouille de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la localité de Diafarabé, région de Mopti. Bilan, 3 militaires tués.
Notre correspondant, Kassim Traoré, nous en dira davantage.
À Brazzaville, après le remaniement ministériel, l'heure est aux critiques.
Et le secrétaire d'État américain John Kerry continue de plaider en faveur de l'adoption par le Congrès de l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran. Mais tout d'abord, le journal. Au Nigeria, au moins 47 personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées dans une explosion sur un marché dans le nord-est du pays, mardi. Une région fréquemment visée par le groupe islamiste Boko Haram. Le point avec Jacques Aristide.
L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabangari, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, à une heure de grande affluence. L'engin explosif était caché dans un sac utilisé pour disperser des herbicides. Il a été introduit dans le marché et visiblement abandonné d'après l'AFP, une attaque qui portait la marque de Boko Haram, selon des témoins qui indiquent que des membres de groupes d'autodéfense et des volontaires se sont rendus sur place et ont pu évacuer les victimes. Des soldats y ont été déployés et le marché a été fermé. L'attaque a eu lieu 2 jours après que des membres de Boko Haram ont tué 4 personnes et en ont enlevé 5 autres au cours d'une embuscade sur une autoroute dans la zone. Des hommes armés, soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste, ont abattu 8 personnes fin juillet dans un village près de Biyou. L'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces de l'ordre nigérianes ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Les États-Unis ont fermement condamné l'attentat qui a touché le village de Sabangari. Selon John Kirby, porte-parole du département d'État, même s'il n'a pas été revendiqué, il est survenu dans une région où Boko Haram a fait des centaines de morts ces dernières semaines.
Et le président tchadien Idriss Déby Itno a déclaré mardi soir que Boko Haram est décapité, ajoutant que le défi est maintenant d'éviter les actions terroristes dans la région du lac Tchad, rapporte l'agence France-Presse. Nous sommes en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram, a affirmé le chef de l'État à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad.
Pour la première fois, M. Déby a évoqué un successeur d'Aboubakar Sheko, présenté jusqu'alors comme le chef du groupe islamiste et qui n'est plus apparu sur les vidéos de propagande de Boko Haram depuis plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui s'appellerait Mahamat Daoud qui aurait remplacé Aboubakar Sheko, a dit M. Déby, qui est toujours cité par l'AFP.
Au Mali, l'attaque du 7 août contre un hôtel de Sévaré dans la région de Mopti a fait 13 morts selon un bilan officiel, mais la principale interrogation reste l'identité des djihadistes. Selon une première information, c'est le groupe de Mokhtar Belmokhtar qui a revendiqué l'attaque, mais une seconde information vient d'attribuer ces attaques aux éléments du Front pour la libération du Massina, dont l'instigateur principal est Amadoun Koufa. Qui est cet homme? Portrait de l'un des éléments les plus recherchés au Mali avec notre correspondant Mamoudou Boukoum.
De son vrai nom, Hamadoun Cissé, avec sa 50aine d'années, est originaire du village de Koufa dans le cercle de Niafrinke. Il a quitté son village natal dans les années 92-93 pour venir s'installer avec ses talibés à Gembe, une bourgade située à quelques 7 km de Mopti. Chanteur renommé des cantiques en foulfoulde, Hamadoun Koufa devient un des prêcheurs le plus coté dans le milieu peul. Vers les années 2000, il part s'installer à Sinakro face à la ville de Amdallah de Sekou Amadou, fondateur de l'empire théocratique du Massina depuis 1818. Injures des cheikhs et critiques d'autres sectes étaient devenues son quotidien dans ses prêches. La seule secte qui avait ses faveurs était la Dawa, à travers laquelle il a fait connaissance avec Iyad Agali. C'est en 2012 qu'il a rallié c'est le rang des djihadistes qui avaient occupé le nord du Mali avec comme base Tombouctou. L'un des hommes les plus recherchés au Mali fait partie des instigateurs de l'attaque de Kona le 10 janvier 2013. Personne n'a pu donner avec certitude là où il est en ce moment précis. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
La mission de l'ONU en Centrafrique a ouvert une enquête après de nouvelles accusations de viol d'une fillette et d'homicide qui auraient été commis par des casques bleus à Bangui. Félix Yepassis Zimbrou.
Selon Amnesty International, tout porte à croire qu'un casque bleu a violé une fillette et d'autres soldats onusiens ont tué deux civils, un adolescent de 16 ans et son père. L'ONG dit avoir recueilli au moins 15 témoignages. Amnesty réclame une enquête indépendante et la suspension des responsables présumés. La MINUSCA prend au sérieux ces accusations. Amadou Touré, son porte-parole, précise qu'une enquête est ouverte sur une opération menée le 2 août au quartier PK5 à Bangui. Au moins 5 personnes, dont un casque bleu camerounais, avaient été tuées. Par ailleurs, la justice française a ouvert une enquête sur 14 militaires français de l'opération Sangaris qui sont accusés de viol de 6 enfants entre fin 2013 et début juin 2014 en Centrafrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par les nouvelles allégations d'Amnesty International sur des sévices commis par des casques bleus en République centrafricaine, a déclaré mardi son porte-parole. Nous tenons à souligner une fois de plus qu'aucune faute de cette nature ne peut être tolérée et que toute allégation sera prise très au sérieux et fera l'objet d'enquêtes approfondies et complètes, a dit Stéphane Dujarric.
Le Parlement donne son feu vert pour une réforme de la Constitution au Rwanda. Ce sera pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Des précisions avec Rachid Bouda.
Déjà, le Parlement rwandais s'était prononcé en faveur de cette réforme, faisant ainsi sauter le verrou des deux mandats présidentiels. Du 20 juillet au 10 août, les parlementaires ont mené des consultations populaires à travers le pays. Le but, sonder les Rwandais sur un amendement de l'article 101 de la Constitution. D'après les députés, plus de 3,7 millions de citoyens avaient déjà signé une pétition pour le maintien du président Kagame au pouvoir. Dans plusieurs pays de la région, comme le Burundi, la République démocratique du Congo ou encore l'Ouganda, les dirigeants sont accusés de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà des limites prévues. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis avril 2000. Selon ses partisans, il est l'homme qui a mis fin au génocide des Tutsis et ramené la paix dans le pays. Pour l'heure, le président rwandais ne s'est pas prononcé sur une troisième candidature.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a annoncé sa démission dans une émission télévisée diffusée mardi soir. Il réagissait aux critiques de téléspectateurs critiquant l'inefficacité de son gouvernement, mais son porte-parole a ensuite démenti qu'il compte abandonner le pouvoir.
Entre-temps, à Genève, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye a appelé les différentes factions en conflit à se mettre d'accord d'ici la fin du mois sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. La Libye est divisée depuis des mois entre deux gouvernements rivaux soutenus par des factions armées qui se disputent le contrôle du pays.
Le secrétaire d'État américain John Kerry, principal artisan de l'accord nucléaire avec l'Iran, continue de plaider en faveur de son adoption par le Congrès. Il prévient qu'en cas de rejet, le dollar en pâtirait en tant que monnaie de réserve internationale. Le point avec Eric Manirakiza.
John Kerry a mis en garde les opposants de l'accord historique conclu avec l'Iran sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, rompre cet accord serait synonyme de lâcher le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. En cas de rejet de l'accord, John Kerry dit craindre un impact négatif sur l'idée que les gens se font du leadership et de la crédibilité des États-Unis. Si les États-Unis agissaient de la sorte, nous perdrions non seulement le soutien de certains partenaires, mais également leur appui si nous devions avoir recours à la force militaire, a-t-il insisté. John Kerry défend avec force depuis des semaines cet accord historique. Son message est destiné à la fois au Congrès américain, mais aussi aux puissances arabes sunnites du Golfe et à Israël sceptique, voire hostile à tout compromis avec l'Iran.
Les médias américains s'interrogeaient mardi soir sur le déploiement à Ferguson, dans le Missouri, de membres du mouvement patriote conservateur Oath Keepers, les gardiens du serment en français. Cette milice s'est déployée dans la nuit de lundi à mardi dans la banlieue de Saint-Louis, ses membres affirmant qu'ils étaient là pour donner un coup de main. Au moins 4 d'entre eux étaient lourdement armés. Les médias ont fait valoir que leur présence pouvait exacerber les tensions raciales.
Deux jeunes gens du Mississippi ont été inculpés de complot et de tentative de fournir un soutien matériel à l'État islamique. Mohamed Daklala et sa fiancée, Jailene Young, ont été arrêtés samedi dernier par le FBI, la police fédérale, alors qu'ils cherchaient à prendre un vol à destination d'Istanbul pour gagner la Syrie. Ils seraient passés aux aveux après leur arrestation, selon les autorités.
La Banque centrale chinoise a baissé pour la deuxième fois le taux de référence du yuan face au dollar, accentuant la dévaluation de facto de la monnaie chinoise. L'institution avait déjà réduit de presque 2% ce taux de référence mardi, la dépréciation la plus brutale enregistrée depuis 2005 et la fin de l'arrimage du yuan au billet vert. Cette décision serait destinée à mitiger le ralentissement de l'activité économique en Chine en relançant le commerce extérieur en difficulté.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Jean-Roger Bion.
Le constructeur automobile américain Ford compte ouvrir une usine d'assemblage de sa gamme de pick-up Ranger au Nigeria avant la fin de l'année. Dans un communiqué publié hier, Ford a indiqué son intention d'assembler son modèle phare dans le pays de Muhammadu Buhari. L'usine du constructeur américain devrait être installée à Ikeja, près de Lagos. Son ouverture est prévue pour le quatrième trimestre 2015, a indiqué le géant américain. La RDC est bientôt productrice de beaucoup plus de pétrole. L'espoir est permis si l'on en croit le ministre des Hydrocarbures qui explique que les conditions sont désormais réunies pour l'exploration des blocs.
Nous avions été bloqués depuis 2008 sur recommandation du Parlement. Maintenant, la loi qui porte le régime général des hydrocarbures est votée. C'est à partir de cela que nous pouvons maintenant reprendre la relance du secteur.
Le ministre congolais des Hydrocarbures, Atama Tabe, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Air China va desservir Johannesburg et Addis Abeba selon le site jeuneafrique.com. La compagnie publique chinoise démarre ses vols directs vers le hub sud-africain le 29 octobre prochain. Une liaison Pékin-Addis Abeba devrait être inaugurée le 2 novembre. Active sur le continent dans les années 1970, Air China y avait depuis longtemps suspendu ses opérations directes, se contentant d'accord avec 3 opérateurs africains, Egypt Air, Ethiopian Airlines et South African Airways.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour.
Bonjour Camille.
Déjà un premier titre pour Barcelone.
Le FC Barcelone a remporté la Super Coupe d'Europe devant le FC Séville. Un match spectaculaire avec 9 buts. Messi a inscrit un doublé et Suarez a aussi marqué pour les Blaugrana qui se sont fait peur. Ils menaient 4-1 après 50 minutes de jeu. Ils ont ensuite vu fondre sur eux les Colchoneros. Les Sévillans égalisent 4 partout dans les ultimes minutes de jeu. Dans les prolongations, le Barça inscrit le but victorieux, victoire 5 buts à 4. A noter que Barcelone a déjà remporté en 2015 le triplé Liga, Coupe et Ligue des Champions.
Des réformes sont en cours à la FIFA.
L'avocat suisse François Carrard, ancien directeur général du Comité international olympique, a été nommé à la tête du comité de réforme de la FIFA. Carrard, 77 ans, qui avait été le coordinateur du comité de réforme du CIO en 2000, après le scandale concernant l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Il est vital pour l'avenir du football mondial de restaurer l'intégrité et la réputation de son organe dirigeant, a déclaré Carrard. En tant que président indépendant, je m'engage à produire les réformes nécessaires.
Le foot avec la rubrique transfert.
L'international français Mathieu Valbuena a signé à l'Olympique Lyonnais. La durée du contrat et le montant du transfert n'ont pas été révélés. On se souvient que le milieu offensif avait été transféré de Marseille au Dynamo Moscou lors du Mercato 2014 pour une somme de 7 millions d'euros et un contrat de 3 ans.
Et maintenant le basket avec le tournoi de Dakar.
L'équipe A du Sénégal a battu l'équipe B sénégalaise 62-51.
Et puis en ce qui concerne le Mali et le Cap-Vert, eh bien l'équipe masculine de basketball du Cap-Vert a battu l'équipe du Mali par 75 points à 44. Le Sénégal remporte le tournoi avec 3 victoires, le Cap-Vert venant en deuxième position, suivi du Sénégal équipe B, puis du Mali quatrième.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Camille Gros-Didier, pour présenter les dossiers du jour. On commence avec la République démocratique du Congo. Voilà, inquiétude suite à la disparition d'un militant citoyen membre du groupe Lucha, lutte pour le changement à Kinshasa. Les Nations Unies ont joint leur voix à ces inquiétudes et exprimé leurs préoccupations sur le cas de Bienvenue Matumo Musangalusa, un militant qui n'a plus été revu depuis samedi après une réunion du Parlement des jeunes congolais. Sa disparition intervient alors que 2 autres membres de son groupe, arrêtés en mars dernier, attendent toujours un procès qui va de report en report. Eddy Sango a joint à Goma un autre membre de Lucha, Juvin Kombe.
Bienvenue est porté disparu depuis le samedi, c'était à 17h, alors qu'il revenait d'une réunion du Conseil national de la jeunesse, c'est une structure qui encadre la jeunesse. Il était invité par son ami. Juste après la réunion, il est sorti et depuis ce jour, nous ne l'avons plus revu. Et ça fait maintenant 3 jours qu'il a disparu et aucune trace jusqu'à présent. C'est ce qui fait que nous puissions alerter pour essayer de chercher où est-ce qu'il peut être.
J'ai vu dans un communiqué que Bienvenue était déjà l'objet de recherches de la part de l'ANR ou des agents de sécurité. Est-ce que vous confirmez cela?
Oui, exactement. Donc, depuis l'arrestation de Fred Bahouma, c'était le 15 mars de cette année, il avait été interpellé parce qu'il faisait partie des membres de FILIM qui organisaient la dite activité où Fred Bahouma, un militant de la Lucha, avait pris part. Comme Bienvenue est aussi membre de la Lucha, a aussi subi cette pression qui était faite par les services de l'intelligence de la RDC, et il était aussi inquiété. Et à maintes reprises, on essayait de l'appeler, on essayait d'aller chez lui où il vit à Kinshasa, mais à un moment donné, on a arrêté ses poursuites, ce qui faisait que Bienvenue croyait qu'il était en sécurité à Kinshasa. Et le samedi, subitement, nous avons été surpris de sa disparition.
Vous sentez-vous en insécurité, vous tous?
Même notre gouvernement en soi n'est pas totalement à mesure de nous accorder une bonne sécurité. Toutes les formes de poursuites qui se font sont dues à des incompétences que nous enregistrons de la part de ceux qui nous gouvernent. Ça fait donc qu'ils soient de plus en plus acharnés quand il y a des jeunes qui essaient de leur dire ce qui devrait être fait. Ils s'acharnent contre nous pour essayer de réprimer et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire cesser tout mouvement qui amènerait la population à prendre conscience d'un quelconque changement au sein de notre pays. C'est l'unique chose que nous avons toujours dénoncée de la part de nos dirigeants, tout en leur demandant de faire mieux parce que notre pays mérite mieux, étant donné tout le potentiel qu'il regorge.
Je vais incomber de Lucha à Goma. Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM. Gros-Didier, pour Le Monde aujourd'hui, à Brazzaville, après le remaniement du gouvernement, l'heure est aux critiques. Les opposants estiment que la nouvelle équipe n'est plus composée que de ministres qui disent oui au changement de constitution. Ce que récuse le tout nouveau ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngosu.
Le nouveau gouvernement ramené à 34 ministres au lieu de 38 connaît 2 départs, Guy-Brice Parfait-Kolela et Claudine Mounari, opposés au changement de constitution. Pour l'opposant Clément Mirassa, ce nouveau gouvernement n'est plus qu'un regroupement du clan Sassou.
Tous les ministres qui disaient non au changement de constitution ont été sortis du gouvernement. Aucun jeune n'est rentré au gouvernement, aucun handicapé. Et il y a beaucoup moins de femmes, puisqu'il y a une femme qui est sortie. Elles étaient 4, il en reste 3. Maintenant, la grande constatation, c'est qu'il y a un tiers des ministres qui sont de l'ethnie du président Denis Sassou Nguesso. Et quand vous observez bien ce gouvernement, tous les ministères dits de souveraineté, ce sont les personnalités qui appartiennent à l'ethnie du président Sassou, ce qui est extrêmement grave.
Réagissant dans une déclaration lue par le député Zinga Mabio à son départ du gouvernement, Guy-Brice Parfait-Kolela parle d'infantilisation de la fonction de ministre.
Avec la mise en place d'un gouvernement du oui au changement de la constitution, il s'agit en vérité d'un non-événement. L'IDC adresse son soutien indéfectible et ses encouragements au ministre Guy-Brice Parfait-Kolela et Claudine Mounari. Ils ont eu le courage de dire non au changement de la Constitution. Et comme pour mieux faire, il faut diviser pour régner, un Kolela se remplace un autre.
Mais pour Thierry Mungalin, le tout nouveau porte-parole du gouvernement, il s'agit bien d'une équipe qui regroupe diverses sensibilités.
D'abord, je voudrais tordre le cou à une approche qui est par trop simpliste auprès d'une certaine opinion qui donne l'impression qu'on a puni les deux ministres qui ont ouvertement déclaré qu'ils étaient contre le changement de la Constitution. Vous aurez remarqué que le gouvernement qui a été réaménagé hier a connu 5 départs et 2 entrées. Donc on ne peut pas résumer à 2 personnalités aussi importantes se considèrent-elles. Alors regardez bien les 5 départs. C'est vrai, les 2 personnalités dont on parle aujourd'hui, la ministre Mounari et le ministre Parfait-Kolela sont sortis, mais que dirait-on du ministre Alain Kouala Tipo, par exemple, qui, jusqu'à ces dernières heures, est, et je pense sera demain, un fervent défenseur du changement de la Constitution. Il est sorti. Et de même, à l'inverse, sur les 2 entrées, nous avons le ministre Tister Tchikaya, qui aujourd'hui est entré et qui est leader d'un parti, le RDPS, qui s'est déclaré en sa présence et sous sa présidence contre le changement de la Constitution.
Les Congolais attendent ce mercredi matin le message du président Denis Sassou Nguesso devant le Parlement, certainement pour annoncer le référendum constitutionnel. Nguela Nguesso, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, Camille Grosdidier. Multiplication des attaques terroristes et djihadistes au Mali. Les populations de Mopti retrouvent leur souffle après un week-end mouvementé avec la prise d'otages au bar-restaurant Biblos. Le calme est revenu, les activités ont repris à Sévaré et Mopti, mais voilà, les habitants demeurent vigilants car des éléments du prédicateur Hamadoum Koufa n'ont pas dit leur dernier mot. Entre-temps, un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la localité de Diafarabé, toujours dans la région de Mopti. Plus de précisions avec Kassim Traoré, de retour de Sévaré.
Au moment où les chefs militaires maliens échangeaient avec le premier ministre à Bamako, un véhicule de patrouille de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la localité de Diafarabé, région de Mopti. Bilan, 3 militaires tués. Général Didier Dako, adjoint au chef d'état-major général de l'armée du Mali.
Il y a eu une attaque à Gourmaradous, il y en a eu un peu partout. Mais tout cela, je pourrais dire, ne nous inquiète pas parce que nous sommes dans des dispositions où nous pouvons contrer ces menaces. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous allons contrer ces menaces et des dispositions sont en cours. Il ne s'agit pas de déployer de nouvelles forces. Les dispositifs qui sont sur place sont déjà suffisants pour faire face à ces différentes menaces. Nous avons quand même quelques difficultés essentiellement en termes de renseignements.
Le mouvement de libération de Massina du prédicateur Hamadoum Koufa a revendiqué la prise d'otage du Biblos de Sévaré. Garba Yafa, commerçant à Sévaré.
Nous, on nous a fait croire que lui, il est mort avec l'intervention française en 2012, mais tout reste à croire que même s'il n'est pas mort, il y a l'ombre de lui qui plane parce que c'est la population de l'interpeller. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même pas qui est djihadiste. Il n'y a même pas de différence, les comportements.
Pour la jeunesse, la situation de sécurité actuelle dépasse le Mali, car il a fallu le concours des forces en présence pour venir à bout des terroristes de Sévaré, même si l'assaut final a été lancé par l'unité d'élite de la gendarmerie malienne. Boubacar Konipo, Antiquaire.
Maintenant, il faut se donner la main. Et le Mali, l'État malien et la communauté internationale. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment inquiétant. faudrait penser à changer un peu le mandat de la MINUSMA. Parce que pour les Maliens, on ne peut pas comprendre qu'il y a la présence des militaires étrangers au Mali. Et après tout ça, là, les touristes font savoir ce qu'ils veulent au Mali. Ça, c'est incompréhensible.
Avec les multiples attaques, les autorités maliennes ont fait beaucoup de discours et de déclarations. Mais pour certaines populations, l'air n'est plus au discours. Bacho Sila de Dougoudougou Tour.
L'air n'est plus vraiment au discours. Qu'ils fassent des choses qui vont dissuader certainement l'ennemi. Il ne suffit plus aujourd'hui de condamner. Il faut prendre des actes concrets, pour mener des actes. C'est-à-dire que toute personne qui est prise sur ce champ de bataille, dans des conditions à perpétrer des attaques contre les populations, qu'ils soient vraiment sanctionnés de façon à être un exemple pour toute personne qui aura l'initiative de mener ces armes d'attaque contre nos forces de sécurité.
Les populations se disent prêtes à donner des informations aux forces de l'ordre, mais c'est à l'État d'équiper l'armée malienne avec des moyens adéquats.
Aujourd'hui, il faut que vraiment les plus hautes autorités œuvrent pour que l'armée puisse arrêter sur ses deux pieds. Parce qu'on a l'impression, quand on voit tous ces morts en une semaine du côté de l'armée, le bilan est très lourd. Donc ça veut dire quelque part que nos hommes ont besoin des moyens pour que désormais ils puissent faire face.
En l'espace d'une semaine, l'armée malienne a perdu 20 hommes. Kassim Traoré, de retour de Sévaré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis, la loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Ici Washington, à Abidjan, le zouglou, une musique urbaine dans laquelle se reconnaissent une majorité d'Ivoiriens, a son temple appelé l'internat, un espace de convivialité entre férus du rythme, un espace où règne une ambiance de folie autour de toutes les musiques dérivées du zouglou. Le point avec Conan Anaki Julien. Dynamo!
Magic System, groupe ivoirien mondialement connu, est le porte-étendard national de la musique zouglou. Une musique urbaine née en 1990 dans une cité universitaire d'Abidjan. Le zouglou découle d'une musique d'ambiance appelée woyo, orchestrée par des percussions et des grelots, souvent le son de bouteilles en verre. Le phénomène zouglou va connaître un recul dans les années 2000 avec l'arrivée dans le giron des musiques urbaines ivoiriennes du coupé décalé. Les adeptes des deux rythmes se regardent même en chiens de faïence. Dans cet environnement, Aimé Zébié, un inconditionnel du zouglou, décide d'ouvrir en 2009 un espace appelé l'internat consacré exclusivement à la musique zouglou et dérivée.
Ce que le peuple passe un bas, hein, le zouglou l'exprime, hein, avec tout ce qui peut comporter l'ironie comme ça, la comédie, tout ça là, mais c'est que pas un humour, tout ça là, mais une façon de dire ça ne va pas ou bien ça va, hein, si ça ne va pas, ressaisis-toi, ça peut aller toujours. Les conseils que peut-être nos parents nous donnent, que peut-être qu'on ne comprend pas, le zouglou essaie de retracer ça.
L'internat, c'est une ambiance de folie tous les dimanches de 14h à 22h. Lieu de rencontre abidjanais de tous les férus du zouglou.
Moi, selon la vie naître le zouglou depuis les vieux temps jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce qui m'amène tout le temps, tous les dimanches à l'internat ici.
60 employés, une séquence woyo, un peu d'humour et du live meuble les journées de l'internat qui ne désemplit jamais. 2500 clients les dimanches, parmi lesquels beaucoup de jeunes filles.
À l'internat, vraiment, c'est trop chic. Qui est un paradis sur la terre, quoi.
Des cadres et quelquefois des ambassadeurs. On peut le dire, l'internat est devenu un espace touristique abidjanais. Julien Naki, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook Rouge et Montou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Every morning when you come downstairs, here's a mess, but I don't care. No makeup on, shining so bright. My old sweatshirt never fit so right. Dancing around to the radio, humming the words that you don't know, 'cause I'm finding an angel off my list. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy.
Voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Herbertson, au micro Camille Grosdidier. Rendez-vous sur Facebook ou notre site internet voafrique.com et une très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.